14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Elle a dit que je la gênais en fait. Et comme elle imaginait que j'aurais souffert et mal supporté ce divorce, eh bien finalement, il valait mieux que je meure. Le plus naturellement du monde.
Bonjour. Difficile de savoir si le diable a quelque chose à voir dans cette histoire. Il n'empêche, à l'époque des faits, la séduisante Geneviève Montillet a hérité d'un surnom qui n'allait plus jamais la quitter, la diabolique d'Antibes. Diabolique parce que cette femme vénale souhaitait la mort de ses chers maris et compagnons pour assouvir son goût immodéré pour l'argent et le luxe. Diabolique encore parce que, mère de famille indigne, elle n'aura pas hésité à impliquer ses propres enfants dans sa trajectoire criminelle, allant jusqu'à les pervertir et de la pire des façons, leur mentir, les trahir, les manipuler, au point de les abîmer et même de les détruire. C'est cette affaire exceptionnelle par son scénario et ses mécanismes psychologiques que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment une mère de famille issue de la bonne bourgeoisie, intelligente et longtemps aimante, a-t-elle pu basculer dans les pires obsessions criminelles jusqu'à anéantir ses enfants? Nous essaierons de répondre à cette question avec nos invités et acteurs de ce dossier.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Geneviève Montillet, dossier qui s'ouvre à l'automne 1992 sur la Côte d'Azur. Cette mère de famille va attirer l'attention des autorités au détour d'une histoire d'héritage. 1er novembre 1992, le dimanche de la Toussaint, aux alentours de 19h, le commissariat d'Antibes est prévenu d'un accident de la circulation sur la route sinueuse et non éclairée du Cap. Un cycliste a été violemment heurté par une voiture qui a pris la fuite. Éric Devrient, 35 ans, n'est pas mort, mais il souffre de profonds traumatismes. Il a été transporté à l'hôpital de La Fontaine. On l'a plongé dans un coma artificiel. Pas de témoin de l'accrochage, pas de traces. Le chauffard reste introuvable. La compagne d'Éric Devrient, Geneviève Montillet, 47 ans, est tout de suite à son chevet. Elle va venir chaque jour à l'hôpital. Le couple est ensemble depuis 7 ans. Une petite fille, Emmanuelle, est née de cette union. Geneviève va divorcer pour vivre avec cet homme plus jeune qu'elle, fils de bonne famille et dépressif. Ces dernières années, il a multiplié les séjours en asile psychiatrique. L'accidenté est en état végétatif. Au bout de 2 mois, les médecins envisagent son placement en centre de rééducation. Mais Geneviève insiste pour qu'Éric soit hospitalisé à domicile. Elle signe en un temps record tous les papiers. Le 11 janvier, une ambulance privée vient chercher le patient. 4 jours plus tard, Éric Devrient décède brutalement. Il se serait étouffé en avalant une boisson, assure sa compagne. 3 jours plus tard, il est incinéré. Seule Geneviève est présente au crématorium. La mère d'Éric Devrient, prévenue tardivement du décès de son fils après l'incinération, est la première à se poser des questions. Elle considère depuis toujours Geneviève comme une femme intéressée et malhonnête. Les compagnies d'assurance sont également soupçonneuses. Il apparaît que la victime avait souscrit pas moins de 8 contrats d'assurance vie. 10 millions de francs au total, 1,5 million d'euros, avec des clauses permettant de doubler ou tripler les versements en cas d'accident de la route. Éric Devrient, à qui sa mère avait coupé les vivres à cause de cette liaison, avait finalement hérité de la fortune de son père. L'enquêteur des assurances tique sur ce drôle d'accident. Pourquoi cet homme est-il parti faire du vélo à la nuit tombée, sans lumière et sans équipement spécial? La veuve aurait-elle elle-même abrégé la vie de son compagnon pour pouvoir encaisser le pactole? Elle est la seule bénéficiaire, avec la petite Emmanuelle, de ces contrats. Aucun élément n'étaye le scénario criminel, jusqu'à ce qu'un expert graphologue soit missionné pour analyser les signatures du défunt. Certaines ont été imitées. 23 février 1993, une enquête est ouverte pour assassinat, mais elle ne s'appuie que sur des présomptions. Geneviève Montillet, questionnée par les enquêteurs, demeure sûre d'elle. Son compagnon, dit-elle, était gravement dépressif. Il risquait l'accident à tout moment. Il a voulu mettre à l'abri les 2 femmes de sa vie, elle-même et leur fille. Geneviève explique que toutes ces années, elle a pris soin d'Éric. Elle l'avait rencontré dans une maison de repos. À l'époque, sur le point de quitter son premier mari, elle louait des téléviseurs aux malades, après avoir été secrétaire et femme de chambre. Pourquoi s'en serait-elle prise à lui ? L'enquête va piétiner pendant 5 ans, dossier bloqué. Les compagnies d'assurance s'apprêtent même à verser l'argent à la bénéficiaire. L'arrivée en 1997 de la nouvelle juge d'instruction Véronique Maugendre au tribunal de Grasse change la donne. Elle pense à un crime. La police judiciaire de Nice est alors discrètement saisie. Le dossier va repartir de façon spectaculaire. Et on va voir comment, dans le chapitre suivant, ce dossier va repartir. Parce que, il faut le dire tout de suite, les révélations, les coups de théâtre vont s'enchaîner dans cette incroyable affaire. On en reste pour l'instant, si vous le voulez bien, à ce premier acte avec nos invités. Et le premier d'entre eux, c'est Didier Chalumeau. Bonjour Didier.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'avoir accepté, Didier Chalumeau, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct de Nice, ancien grand reporter à Nice Matin, spécialiste des affaires policières et judiciaires. Et vous connaissez parfaitement celle-ci dont nous racontons l'incroyable destinée dans cette heure du crime. Alors, histoire déjà de planter un petit peu le décor, si je puis dire, qui est ce couple Éric Devrient et Geneviève Montillé ?
Alors c'est un couple déjà qui a une différence d'âge, puisque Madame Montillé est âgée de 12 ans de plus que son compagnon. Elle l'a rencontré, comme vous l'avez dit précédemment, dans une maison de repos lorsqu'elle vendait des téléviseurs. Lui, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille plutôt aisée. Son père est décédé à Tahiti et avait un héritage assez confortable. Elle vient d'une famille très populaire au départ. En revanche, elle était adoptée par un couple de personnes assez aisées aussi. Elle a eu une enfance assez confortable.
Dans le nord de la France, c'est ça.
Dans le nord, elle est originaire d'Armentières.
C'est ça.
Voilà. Et ensuite, elle a été adoptée par une famille. Et elle a plutôt eu une enfance correcte. Elle a un niveau scolaire tout à fait normal. Je crois qu'elle est bachelière. Elle a fait, je crois, aussi de la comptabilité. Mais en revanche, elle a jamais exercé de profession très rémunératrice.
Et régulière, on peut le dire. Elle a fait des petits boulots, comme ça, comme on dit, à droite, à gauche. Et puis, elle va se marier très jeune, Didier Chalumeau. Elle se marie très jeune à un copain de lycée, René Desmulliez,
À René Desmulliez, avec lequel elle aura 3 enfants.
C'est ça.
Laurent, Valérie et Fabrice.
D'accord. Donc il y a les deux jumeaux dont on va parler parce que ils sont importants, ils vont jouer un rôle dans cette histoire. Bonjour André Bloch.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être vous aussi en ligne dans l'heure du crime. Votre expertise nous est précieuse aujourd'hui parce que je rappelle, vous avez été le chef de la brigade criminelle de la PJ de Nice et en charge de l'affaire de 1998 à 2001 de cette affaire. C'est vous qui l'avez traitée et c'est vous d'ailleurs qui allez la faire sortir. On va en parler, on va en progresser dans cette affaire. Je voudrais que vous nous disiez, André Bloch, il y a ces deux garçons qui viennent vivre avec leur mère à Antibes, ce sont des jumeaux. Est-ce que vous pouvez nous dire, ils vivent dans un drôle d'environnement, cette famille à Antibes ?
Oui, tout d'abord, l'un des deux était reparti avec son père à Tahiti pendant une année et est revenu retrouver son frère jumeau autour d'Antibes. Ils vivent dans des squats, ils sont des drogués et ils sont en permanence dans des squats à proximité de l'appartement de leur mère, mais ne vivent pas avec elle. Mais ils sont en permanence dans des squats.
D'accord, donc c'est un environnement un peu particulier et on va voir pourquoi d'ailleurs et ce que peut en tirer comme résultat Geneviève Montillé. C'est étonnant cette histoire d'accident parce qu'au début vos collègues du commissariat de Grasse, il y a rien qui peut dire qu'il y a un crime qui se cache derrière cet accident.
Le départ, c'est un accident de la circulation banale pour les premiers enquêteurs du commissariat d'Antibes. Ils sont appelés de nuit vers 19h lorsque l'accident a lieu. Et c'est un cycliste qui s'est fait renverser par un véhicule qui a pris la fuite. Voilà, le départ de l'affaire, c'est celui-là, qui aurait pu être un accident banal.
Et André Bloch, on le précise, à l'époque, sur le casier judiciaire de Geneviève Montillé, on ne trouve rien. Il n'y a rien qui puisse attirer l'attention.
Non, il n'y a rien et on va peut-être voir pourquoi, alors qu'elle avait déjà essayé de tuer son premier mari.
Oui, mais ça on va le voir pourquoi effectivement, et ça va être une véritable surprise dans cette enquête que vous menez. Didier Chalumeau, qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans cet accident pour qu'il attire l'attention des... notamment des assurances et puis de la mère d'Éric Devrient, parce qu'elle a été prévenue très tardivement du décès de son fils. Ça, c'est troublant.
Oui, alors ce qui est surtout, ce qui met la puce à l'oreille de la maman d'Éric Devrient, c'est que Geneviève Montillet a fait incinérer Éric, son compagnon, en urgence, et en plus, elle ne l'a pas fait incinérer à Nice, mais à Orange, dans le Vaucluse. Mmh. Donc déjà, ça s'allumait vraiment la puce à l'oreille, et elle était très pressée de l'enterrer, quoi. Enfin, de l'incinérer. Voilà.
Et donc, et puis il y a aussi le coût des assurances. Un petit mot là-dessus, c'est-à-dire que là, c'est troublant parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière à la clé. Hein.
Alors, elle a souscrit énormément. Enfin, je crois que c'est 8 contrats d'assurance de manière très rapprochée dans les 2 ou 3 mois précédant le décès d'Éric Devrient. Et il y a un contrat qui est vraiment très particulier, où la prime d'assurance doublait si le décès avait lieu un jour férié, et triplait en cas d'accident de la route.
Et c'est le cas dans cette histoire, il y a un hasard plutôt pour le moins curieux. La personnalité de la mère de famille est désormais compagne esselée, intéresse au plus haut point les enquêteurs qui vont aller de surprise en découvrant l'envers du décor. La juge Maugendre a donné carte blanche au commandant de la PJ de Nice, André Bloch, pour travailler sur Geneviève Montillet. Celle-ci est placée sur écoute, ainsi que son entourage, principalement ses 2 fils qui sont venus vivre avec elle à Antibes, les jumeaux Fabrice et Valérie. 2 garçons âgés de 21 ans, laissés dans un quasi-abandon, déscolarisés, logeant dans un squat pas très loin de la maison de Geneviève et en proie à de lourds problèmes de drogue. Sur les écoutes, la mère de famille semble être sur ses gardes. Elle évoque fréquemment l'argent des assurances qui tarde à arriver, mais demande à tout le monde de rester très discret. Elle est toutefois imprudente avec sa voisine, Madame Bernardin, 80 ans. Lors d'une conversation téléphonique, elle lui demande de bien dire, si la police lui demande, qu'elle était avec elle quand son compagnon est mort. C'est important, insiste Geneviève auprès de la vieille dame. Un autre coup de fil entre Valérie, un des jumeaux, et son père, René Desmulliers, fait sensation. Le garçon, à bout, confesse que l'accident d'Éric serait en fait une tentative d'assassinat. 19 janvier 1999, Geneviève Montillet ainsi que les jumeaux sont placés en garde à vue dans les locaux de la PJ à Nice. René Desmulliers, l'ancien mari, a également été convoqué pour apporter son éclairage. Le policier André Bloch soupçonne un complot familial sans en mesurer pour le moment les tenants et les aboutissants. Fabrice et Valérie indiquent dans un premier temps tout ignorer d'une quelconque tentative de meurtre ou d'assassinat sur fond d'assurance vie. Au bout de quelques heures, ils finissent par craquer. Fabrice indique qu'à la demande de sa mère, il a recruté un de ses copains toxicaux, un certain Yann, pour percuter et tuer Éric Devrient lors de sa balade à vélo. Le jumeau assure qu'il n'était pas à bord de la voiture, pas plus que son frère. C'est le fameux Yann qui conduisait. Ce dernier, connu pour toxicomanie, est rapidement identifié, interpellé et questionné. Il confirme avoir été chargé de ce contrat qui devait lui rapporter des milliers d'euros. Au fil des déclarations, les enquêteurs découvrent que ce Yann a aussi accompagné Geneviève à l'hôpital, au chevet d'Éric. Une seringue aurait été utilisée pour injecter des bulles d'air dans les perfusions de l'accidenté, histoire de provoquer sa mort, mais sans succès. Après 24 heures de garde à vue, Geneviève Montillet, confrontée aux aveux accablants de ses fils, admet qu'elle a commandité l'assassinat d'Éric Devrient. Mais elle dément, avec vigueur, l'avoir tué alors qu'il se trouvait à leur domicile. Pour justifier son attitude, elle indique « Je craignais qu'Éric s'en prenne sexuellement à notre fille. J'avais envisagé de le faire tuer. Je voulais que sa mort serve à quelque chose, autant faire d'une pierre 2 coups. » Une affirmation qui n'est en fait qu'un mensonge supplémentaire. Emmanuel, la fille du couple, démentira avec la plus grande assurance cette assertion parfaitement obscène. L'enquête établit encore que Geneviève avait un jour demandé à ses fils de tirer sur Éric à la carabine à plomb lors d'une balade en forêt. Une mort qui aurait été un malheureux accident. L'un des jumeaux avait bel et bien tiré, mais simplement blessé à la tête, l'infortuné compagnon. Et on va voir que ce n'est pas fini avec Geneviève Montillet, qui cache un passé encore plus sombre, et ça sera dans le chapitre suivant. André Bloch, c'est là que votre témoignage est capital pour nous dans cette heure du crime. C'est vous qui pilotez cette enquête, j'ai cité votre nom dans ce récit. Le maillon faible dans cette histoire, lorsque vous réalisez ces interpellations, après avoir eu ces écoutes qui sont capitales, le maillon faible, ce sont les jumeaux.
Ce sont les jumeaux parce qu'ils étaient très très jeunes lorsqu'elle leur a fait faire ce qu'elle leur a imposé. Mais ils étaient à la fois sous sa coupe parce qu'elle savait les manipuler pendant de nombreuses années, elle les a manipulés. Mmh. Ils étaient le maillon faible parce qu'elle a pu les utiliser et se servir d'eux pour arriver aux fins qu'elle s'était fixées.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jumeaux? Ils finissent par craquer et là ils sont presque désespérés parce qu'ils trahissent leur mère.
Alors, dans un premier temps, évidemment, ils sont persuadés de pouvoir continuer à raconter ce que leur mère leur a indiqué de dire. Et puis, il y avait un certain nombre de très nombreux arguments qui ont permis de mettre en cause leur participation. Et ils ont évidemment été interrogés les premiers et ils ont raconter les premiers ce qui s'était passé à la fois pour l'accident et puis pour la suite.
Comment est-ce qu'elle se comporte, Geneviève Montillet, en garde à vue?
Alors c'était très particulier. Elle était d'abord très sûre d'elle, comme toujours, niant absolument tout et ne voulant absolument, disant qu'elle était étrangère à toute cette affaire. Elle a été ensuite déstabilisée pour deux raisons. Parce que bien sûr nous lui avions montré ce qu'avaient dit Fabrice et Valérie, et puis surtout lorsqu'elle a vu arriver, et on l'avait fait exprès de qu'elle puisse les voir, vu arriver en garde à vue également son mari qui venait du Vaucluse et Étiennette Bernardin qui était son alibi le plus sûr.
Et ça, donc du coup, elle a vu passer ces gens. Bon, c'est une technique policière comme une autre. Hein. Elle les a vus passer dans le couloir. Et là, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui craquait chez elle?
Alors, c'est l'instant qui a tout fait basculer. Geneviève Montillet m'a dit à un moment donné, bon, je veux bien vous parler, mais à vous tout seul. On s'était prendre un risque, on sait qu'on ne le fait pas souvent. Hein. J'étais avec une inspectrice et puis un collègue, et je leur ai dit de sortir, et c'est là qu'elle m'a dit, je vous raconte ce qui s'est passé pour l'accident. Et évidemment, dans ces cas-là, il faut être relativement psychologue, être suffisamment habile pour arriver à prendre la déclaration le plus vite possible, afin qu'elle ne change pas d'avis, puisqu'elle l'a changé par la suite, mais elle a reconnu avoir manipuler ses fils l'un après l'autre. Valérie avait refusé. Fabrice avait accepté de trouver quelqu'un pour provoquer l'accident de la circulation. Et Fabrice nous dit que c'était un prénom Elian.
Ouais, voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que vous pensez, André Bloch? Vous en avez vu défiler des suspects, des personnes accusées, etc. dans votre carrière. Qu'est-ce que vous pensez sur le moment de Geneviève Montillet? Comment vous l'analysez? Vous dites qu'il faut faire preuve de psychologie. Qu'est-ce que vous voyez à travers cette femme?
Vous savez, c'est dans de nombreuses affaires, il ne faut pas rater le moment où il y a ce passage du déni à l'aveu.
L'instant critique, c'est ça, hein?
L'instant critique. Si on le loupe, en général, il ne revient pas. Bon, voilà, à ce moment-là, il fallait le saisir et nous l'avons saisi.
Mais est-ce qu'elle est plutôt sympathique avec vous? Ou bien
non.
C'est une femme froide?
Non, c'est une femme relativement froide. Elle, comme toujours, elle a essayé pendant un temps de me manipuler, comme elle a toujours fait avec tout le monde. Ne serait-ce, et c'était le risque que je prenais, de l'entendre seule avec les risques que cela comportait.
Bien sûr, ça pouvait être effectivement, comme on dit, à haut risque et de tout faire basculer d'un côté ou de l'autre. Didier Chalumeau, ancien grand reporter à Nice Matin, et vous connaissez bien cette affaire en direct dans l'heure du crime aujourd'hui. C'est fascinant ce que raconte André Bloch, parce qu'il y a toute la généalogie de la manière dont Geneviève Montillet est passée aux aveux, même si elle va se reprendre par la suite, on va en parler. Et puis il y a ce montage témoignage, parce que il n'y a pas que les jumeaux, il y a aussi le fameux Yann, le complice qui a été embauché. Et il joue un rôle important dans cette histoire.
Ah ben oui, il joue un rôle même très important, puisque c'est lui qui est chargé d'exécuter la basse besogne.
Et alors, qui est-il? Il est recruté, c'est un ami des jumeaux, c'est ça?
Alors, c'est un ami des jumeaux, c'est un fils de brocanteur niçois, dont on apprendra plus tard qu'il a tué son père. Et c'est un garçon qui est très déstabilisé.
Décidément, il y a beaucoup de meurtres cachés dans cette histoire.
Hein. Ah oui. Et Yann, c'est un garçon qui a été battu par son père, qui a eu une enfance très difficile, qui après a été casque bleu au Liban et qui avait à cœur un peu de se racheter en s'engageant dans l'armée. Mais il avait besoin d'argent et il a accepté cette mission, qu'on peut qualifier ainsi, en échange d'une grosse somme d'argent.
Jusqu'à aller avec elle à l'hôpital, il faut le signaler ça, parce que là les policiers vont trouver aussi qu'il y a eu ces fameuses perfusions un petit peu améliorées, si je puis dire.
Alors, comme il l'avait, entre guillemets, de manière un peu triviale, il l'avait raté, Geneviève Montillet lui a demandé de le finir.
Ce sont ses termes.
Oui. Et oui, ce sont ses termes. Elle lui a demandé de le finir. Elle l'a emmené à l'hôpital avec lui. Là, dans la salle de bain, elle lui a montré comment, avec une seringue, injecter de l'air dans la perfusion d'Éric de Vrient. Mais ça n'a pas marché. Ouais. Lui, il a refusé aussi. Il a refusé de l'achever. Et en fait, elle l'a fait elle-même, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il a pris conscience qu'il pouvait plus tenter une seconde fois de l'assassiner, quoi.
Ouais. Et donc, refusé. Et donc, elle va le ramener chez lui. Enfin, elle va le ramener chez lui. Et c'est là que va se passer effectivement la fin d'Éric de Vrient. On ne sait pas de quoi il est mort exactement, Éric de Vrient. On le saura jamais.
Non, puisqu'elle l'a incinéré très rapidement.
La mère de famille apparaît peu à peu sous son jour le plus obscur. Elle a manipulé et actionné ses jumeaux pour parvenir à ses fins, tuer son compagnon. Surprise, elle n'en est pas à son coup d'essai. C'est 19 et 20 janvier 1999, alors que les policiers niçois recueillent les aveux de Geneviève Montillet et de ses fils, René Desmulliez est entendu dans une autre pièce. Il est le premier mari de Geneviève, le père des jumeaux Fabrice et Valérie. Il avait rencontré Geneviève sur les bancs du lycée. Ils se sont mariés jeunes, ont vécu ensemble pendant 19 ans, avant que Geneviève lui annonce qu'elle avait rencontré un autre homme très riche et qu'elle allait divorcer. René Desmulliez décrit une femme obsédée par l'argent et par le luxe, mais il raconte surtout qu'il y a 14 ans, février 1985, elle a voulu le faire assassiner. Ce sont les policiers du commissariat du 18e arrondissement de Paris qui ont traité à l'époque cette affaire. Un jeune garçon est venu leur raconter qu'une femme lui avait proposé 300 000 francs pour qu'il tue son mari. Il a dit oui, puis il s'est dégonflé. La femme en question est Geneviève Montillet, épouse Desmulliez. Elle est alors interpellée. Face aux policiers, Geneviève passe aux aveux. Elle raconte en pleurant qu'elle a un amant et voulait faire tuer son époux pour éviter à ce dernier la douleur de la séparation. René Desmulliez se retrouve alors face à un terrifiant cas de conscience. S'il porte plainte, l'épouse indigne ira en prison. Il pense à l'équilibre des jumeaux et renonce finalement à engager des poursuites. Le parquet n'engagera aucune action judiciaire contre cette femme dont le casier demeure donc vierge. René Desmulliez raconte aux policiers que son couple a continué à cohabiter pendant quelques mois, son épouse lui demandant pardon. Avant de quitter le foyer pour divorcer et s'installer chez Éric de Vrient, dans un appartement de Pantin, puis ensuite à Antibes, René Desmulliez s'apercevra que son épouse est partie avec toutes les économies de la famille, ne laissant derrière elle qu'une longue liste de dettes. Et voilà donc pour cette incroyable histoire. Des années auparavant, il y a cette tentative d'assassinat qui est totalement reconnue, établie et qui ne figurera pas, on le voit, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, ne figurera pas au casier judiciaire parce qu'il n'y a eu aucune poursuite engagée. Didier Chalumeau, c'est incroyable qu'effectivement il n'y ait pas eu de suite dans cette histoire.
Mais l'affaire a été classée, en fait. Lorsque les policiers l'ont appris, il n'y avait plus assez d'éléments pour pouvoir, à l'époque, je pense qu'on disait encore inculpé, et du coup, elle s'en est sortie sans casier judiciaire, effectivement.
Mais le parquet n'a pas poursuivi, il n'y a eu aucune poursuite là-dessus.
Non, il n'y a pas eu de poursuite. Non.
André Bloch, vous êtes, c'est vous qui traitez cette affaire à Montillet, à la PJ de Nice. Lorsque vous apprenez cette première tentative d'assassinat, je suppose que là, vous tombez des nues.
Absolument. D'ailleurs, on ne la connaissait absolument pas. Et c'est René Desmulliers qui, au cours de l'audition, pensant que nous étions au courant de cela, est venu nous la raconter. Et c'est ensuite qu'on a un petit peu travaillé dessus pour savoir comment ça s'était passé, avec beaucoup de similitudes par rapport à l'affaire qui concernait Éric de Vrienne.
Alors je suppose que là, André Bloch, ça change tout dans la tête évidemment des enquêteurs, parce que vous ne voyez plus la personne de la même manière, et puis aussi dans la tête de la juge d'instruction, parce que là, on a affaire à un profil criminel déjà éprouvé.
Oui, absolument. On s'aperçoit que chaque fois qu'elle a résoudre un problème, il faut qu'elle le résolve de façon radicale, c'est-à-dire tuer la personne qui la gêne.
Ah, ça, c'est ça. Donc, elle reconnaît, vous lui en parlez avec elle de cette première tentative ?
Non, parce qu'elle est complètement. Elle fera partie de notre dossier, donc on n'en parle pas du tout. Mais on travaille dessus pour voir comment se sont passées les choses. Et c'est en faisant en revoyant tout le dossier précédent que l'on s'aperçoit qu'elle a agi de la même façon, de façon méthodique, précise et prévoyante pour tout préparer.
Alors on a là le profil parfait presque d'une sériale criminelle, j'ai envie de dire. En tout cas, une personne qui a des obsessions. Et il n'y a pas que ça, Didier Chalumeau, parce qu'elle elle a multiplié aussi certaines escroqueries. On sait qu'elle essaie d'avoir de l'argent toujours en permanence d'une manière ou d'une autre et pas de façon honnête.
Oui, alors elle avait notamment commis une escroquerie au préjudice de la caisse d'allocation vieillesse pour les cadres de l'industrie du commerce de son père. Mmh. En fait, elle a continué à percevoir la retraite de son père alors qu'il était décédé.
C'est ça. Donc et donc ça, elle va percevoir beaucoup d'argent et pendant des années, elle a été poursuivie pour cela. Et puis également, il y a une histoire de pension alimentaire avec son ex-mari qu'elle va continuer à toucher alors que peut-être elle ne devait pas la toucher.
Oui, et puis il y a également des vols au préjudice de voisins.
Ah bon ?
Un cambriolage chez des voisins, oui. Elle avait fait cambrioler la maison de ses voisins dans le Nord. Voilà.
André Bloch, on peut dire qu'elle cache tout ce qu'elle fait, Geneviève Montillet. Comme ça, on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession.
C'est un petit peu ça, et surtout elle fait supporter la responsabilité à tous les autres. Par exemple, ce dont parlait Didier là, sur le vol des voisins, elle demande à son fils aîné, qui était mineur, d'en prendre la responsabilité pour qu'eux ne soient pas accusés. Et c'est finalement le fils aîné qui prend la responsabilité de ce vol, alors qu'il n'y était pour rien.
C'est toujours les enfants qui sont accusés avec Geneviève Montillet. Rapidement surnommée la diabolique d'Antibes, la mère de famille dément avoir tué qui que ce soit. Elle est toutefois renvoyée devant une cour d'assises avec l'un de ses fils et Yann, le garçon embauché pour la sale besogne. Ce 23 juin 2003, Geneviève Montillet, 57 ans, chemisier blanc, cheveux blonds, lunettes de vue, apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes. Ses deux complices désignés, Fabrice, l'un de ses fils, et Yann, embauché pour tuer son compagnon, avaient effectivement 17 ans au moment des faits. Le public est venu en masse voir la diabolique. Les jurés la dévisagent. Elle n'a pas un regard pour ses co-accusés qui apparaissent vite comme des pièces rapportées. Deux garçons perdus. Fabrice se dit très attaché à sa mère, mais il indique qu'elle a toujours su le manipuler, lui et son frère. « C'est faux !» répond systématiquement une accusée qui n'admet que la première tentative d'assassinat sur son ex-mari, classée depuis longtemps par la justice. « J'étais en dépression, je ne peux pas vous expliquer », dit-elle. Quand on lui fait remarquer qu'elle sait imaginer des plans minutieusement structurés, elle répond « On en rajoute pour me charger, c'est un trop mauvais souvenir, je ne répondrai plus à aucune question sur cette affaire ». Les experts psychiatres décrivent Geneviève Montillier comme une femme parfaitement maîtresse d'elle-même, lucide, organisée. Dans son rapport, le docteur Louis Roure met en avant un discours cohérent et parfaitement structuré, une femme qui aurait horreur de commander, mais qui, précise-t-il, c'est utiliser ce qu'elle a à sa disposition. Il en résulte le portrait d'une mère indigne, prête aux pires extrémités pour parvenir à ses fins. Fabrice et Yann, complices passifs et presque forcés, sont condamnés à 5 ans de prison. Geneviève Montillier, déclarée coupable de la mort d'Éric de Vrient, un homme qu'elle a tué pour son seul argent, écope de 25 ans de réclusion. Aucune réaction à l'annonce du verdict. Et elle ne fera pas appel de cette condamnation. Didier Chalumeau, ancien journaliste à Nice Matin, à ce procès Geneviève Montillier devant la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, quel visage elle présente ? Je pense qu'elle captait tous les regards.
Oui, alors surtout elle était extrêmement froide. Et surtout, elle était arc-boutée sur sa position de dire que tout le monde mentait, qu'on l'accablait, mais elle a rien lâché pendant tout le procès. Et effectivement, elle aimantait les regards, comme vous dites, et parce que tout le monde voulait voir qui était cette femme, cette diabolique, en fait, ce monstre.
Voilà. Bien sûr. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que elle essaie de déplacer à nouveau la responsabilité sur les autres. Elle est prête à tout, même devant une cour d'assises, où c'est assez compliqué quand même.
Ah oui, puis elle est même prête à charger ses enfants. Elle est prête à charger tout le monde, mais au final, elle s'en sort quand même très bien, parce que l'avocat général avait requis 30 ans. Et elle s'en sort avec 25 ans, elle s'en sort plutôt bien. Ouais. Elle s'est très mal défendue. Mais bon, son avocat était très bon, mais elle s'était très mal défendue en niant tout en bloc. Elle était carrément dans le déni, si vous préférez.
C'est ça, c'est-à-dire qu'elle n'a rien fait, on lui fait un mauvais procès, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Elle était dans le déni, alors qu'elle avait tout avoué, comme l'a dit précédemment le commandant Bloch. Elle avait tout avoué, et en détail, avec des aveux circonstanciés, comme on appelle ça.
André Bloch, justement, chef de la brigade criminelle à la PJ de Nice, et qui a mené toute cette enquête, les accusations sont accablantes. Ça ne passe pas, cette attitude de dénégation ?
Ça ne passe pas, surtout parce que, même à la barre, ça s'est passé déjà avant. Un fait très 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 important, c'est que lorsque le jour de l'assassinat d'Éric de Vrient, elle avait fait venir son fils qui était drogué pour le laisser seul avec lui, avec un témoin pour prouver qu'il allait rester, pour pouvoir le faire accuser si c'était nécessaire. Et à la barre, elle continue pareil lorsque elle met en cause Fabrice et Yann pour dire que c'est eux les instigateurs et les seuls instigateurs de ce qui s'est passé le jour de l'accident de la circulation.
Alors il faut avoir un sacré aplomb, j'ai envie de dire, parce que elle vous a dit ça sans doute lors de vos auditions, mais elle le répète ici devant la cour d'assises. C'est rarissime d'arriver à tenir ces dénégations.
Et surtout de mettre en cause son fils qui est également mis en cause, et du jeune copain Yann. Devant la cour d'assises, elle répète que c'est eux qui sont les instigateurs de l'affaire.
Ouais, et d'ailleurs, Fabrice va raconter, c'est assez hallucinant ce procès, parce qu'il va raconter que leur mère, les jumeaux, les entretenaient dans leur état de toxicomanie.
C'est elle qui participait, qui finançait l'achat de la drogue, qui confectionnait les petites boules de drogue, et ensuite elle participait aux bénéfices.
Tout ça pour les tenir sous sa coupe ?
Tout à fait.
Ouais. Et donc ça permettait d'avoir une influence sur eux, de les garder et de les manipuler ?
Oui, ils étaient complètement manipulables. C'est le principal trait de caractère de cette femme. Elle était manipulatrice, machiavélique, bien sûr, on a dit diabolique, ça lui allait bien, mais elle était surtout manipulatrice. Elle arrivait à manipuler absolument tout le monde, et elle a manipulé tout le monde. Son premier mari, son fils, les jumeaux, sa fille, Éric de Vrient, tout le monde, y compris le médecin qui est venu constater le décès.
Le décès, oui, effectivement, qui signera un petit peu, pas les yeux fermés, j'ai envie de dire, mais très rapidement, l'autorisation d'inhumer ou d'incinérer le décédé. Encore une question, Didier Chalumeau, elle n'a pas de réaction lorsque tombe le verdict ?
Elle jette un regard vite fait dans la salle et elle s'en va.
C'est ça.
Avec les menottes, en détention. Enfin, elle retourne en détention, plus précisément, puisqu'évidemment, elle était en détention provisoire avant. Non, non, elle, aucune réaction. Elle était d'une froideur extrême.
La mère de famille est donc assassin, prend le chemin de la prison. Elle va y rester de longues années, répétant à ses rares visiteurs qu'elle a été injustement condamnée, jusqu'à ce que la maladie la rattrape. Les enfants de Geneviève Montillé, les jumeaux Fabrice et Valérie, sa plus jeune fille Emmanuelle, vont avoir tout le mal du monde à accepter le fait que leur mère les ait manipulés et trompés. Une femme instigatrice et actrice, actionnant ses fils comme des exécutants et des justiciers, distribuant les rôles aux deux garçons et mentant à sa fille, notera un psychiatre, une personnalité égocentrique, ne se souciant pas du bien de ceux qu'elle aurait dû aimer et protéger. Après 7 années passées en détention, Geneviève Montillé, malade, décède le 15 mai 2010 à l'âge de 65 ans à l'hôpital de la prison de Rennes. Son fils Fabrice était lui sorti de prison quelques mois après sa condamnation. Valérie, son frère, meurt en 2015 à l'âge de 40 ans. L'ancien mari, René Desmulliez, ne pardonnera jamais à cette femme d'avoir entraîné ses fils dans la tourmente au point de les sacrifier. À la barre de la cour d'assises, l'ex-mari avait déclaré « Ce qui peut lui arriver aujourd'hui n'a aucune importance. Pour moi, elle est morte, mais elle est apte à tout masquer. » Une personne donc qui est apte à tout masquer, une personne qui ment, qui dissimule. Je vais poser la même question à nos deux invités. Je vais commencer par Didier Chalumeau. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui est vraiment Geneviève Montillé ? C'est compliqué.
Bah écoutez, on a quand même une idée un peu plus précise après le procès. C'était, mais ça c'est presque un lieu commun maintenant, c'était quelqu'un d'extrêmement cupide.
Ouais.
Et évidemment de machiavélique, comme l'a dit André Bloch, mais diabolique aussi, et surtout, franchement, je pense, assez méchante.
Ouais. En tout cas, d'une froideur absolue, puisque pour en allant jusqu'à manipuler ses enfants, c'est ça le plus important dans cette histoire, finalement.
Je pense qu'il y avait un manque d'empathie chez elle qui était vraiment significatif.
André Bloch, vous avez réussi à dresser un portrait, si je puis dire, un peu plus affiné de Geneviève Montillé au fil de vos auditions avec elle et au fil de cette enquête ?
Oui, certainement, mais je crois que celui qui l'a dépeigné le mieux, c'était René. Il avait dit...
Son mari, son ex-mari.
Son ex-mari. Il disait, je me souviens encore de la phrase, qu'elle pouvait manipuler n'importe qui, ses enfants, ses amis, qu'elle était capable de tout sans scrupule ni remords. Je crois qu'il ajoutait, c'est une femme qui efface tout, qui ne culpabilise jamais et qui n'a jamais honte de rien. Elle se persuader qu'elle n'a rien fait. Je crois que c'est lui qui la définissait parfaitement.
Pourtant, elle a avoué devant vous hein, les faits, mais ça n'a pas duré longtemps.
Absolument, et c'était la surprise. Personne ne pensait qu'elle pourrait un jour avouer une partie de ce qu'elle avait fait. Je crois qu'elle a eu des remords là-dessus en permanence d'avoir un jour avoué devant moi une partie de ce qu'elle avait fait.
C'est ça. Donc, et quant à ses fils, vous les avez aussi auditionnés, évidemment. Qu'est-ce qu'il en sortait de ces auditions ? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont été complètement brisés par cette histoire. Ils ont finalement dénoncé leur mère, entre guillemets, même s'ils n'avaient pas le choix.
Oui, mais il faut dire qu'ils ont été tellement manipulés par elle depuis leur enfance. Vous vous rendez compte qu'à 11 ans, elle leur avait déjà demandé de tirer dans la tête de Rick Devrienne. Et par la suite, donc, je crois qu'ils avaient contre elle plus aucun sentiment filial. Ils n'avaient pas d'amour pour elle. Ils avaient trop subi ces manipulations et ce qu'elle avait voulu leur faire faire.
Didier Chalumeau, c'est une enquête très étonnante, cette enquête, parce qu'il y a tous les ingrédients, effectivement, de la manipulation, mais il y a aussi du secret. Et comment on peut rentrer là-dedans, dans la tête de cette personne ?
Oh ben c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il faut rendre hommage à André Bloch et à la juge Véronique Maujean pour leur ténacité. Parce que c'est une affaire qui aurait pu finir en cold case, très facilement. Et effectivement, rentrer dans sa tête, je pense que c'est Surtout maintenant qu'elle est disparue, c'est vraiment compliqué, d'autant qu'elle ne s'est jamais vraiment confiée, y compris à ses avocats.
Oui, et parce que par la suite, lors de l'instruction avec la juge, etc., elle va revenir sur ses propos. Hein, elle va dire « moi j'ai rien fait », etc. Elle va se refermer complètement. Finalement, il n'y a que cette lucarne de l'enquête qui a été ouverte très brièvement.
Oui, celui qui a le plus recueilli ses confidences, c'est André Bloch.
Bien sûr.
Après, elle s'est fermée comme une huître. Hein.
Oui. André Bloch, en quoi cette enquête, vous nous l'avez dit quand on a préparé cette émission, vous l'avez dit, c'est l'enquête qui a marqué ma vie, c'est un peu l'enquête qui a marqué ma carrière. En quoi elle a marqué à ce point votre carrière ?
Mais en tout cas, c'était la dernière, donc c'est celle dont je me souviens le mieux. Elle était certainement la plus aboutie, peut-être une des plus compliquées. Elle était la moins évidente car elle était débutée par un simple accident de la circulation. Pour la résoudre, c'était 6 ans après les faits. On a réussi à résoudre 2 ou 3 tentatives d'assassinat. On est parvenu à prouver un assassinat malgré les obstructions de Geneviève Montillier, malgré les alibis qu'elle s'était fabriqués, malgré la manipulation de tous, de la famille, de son ami et même du docteur de SOS Médecins. Donc je crois que cette enquête, qui est un petit peu particulière, c'est vrai, m'a certainement marqué.
Oui, et puis vous êtes allé presque au bout du monde, je crois, pour enquêter aussi. Hein.
Un petit peu, oui, puisqu'on est allé rechercher la personne qui l'avait vue la dernière, juste au moment où elle allait, juste quelques instants avant qu'elle le tue. C'était la surveillante du HAD qui se retrouvait du côté de Papet, était là-bas, et on était allé la chercher.
Pour recueillir son témoignage.
Pour recueillir son témoignage et recueillir également le témoignage du notaire de la succession du grand-père d'Emmanuel, la fille de Geneviève, pour montrer que les contrats d'assurance dont elle disait qu'elle avait falsifié et qu'elle disait l'avoir fait parce que Éric de Brienne ne pouvait pas écrire. On a démontré que des lettres étaient faites ce jour-là.
Bien sûr, donc c'est une enquête au long cours. Merci beaucoup André Bloch, Didier Chalumeau d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.